s'il y avait des noms francophones, enfin des gens qui voudraient une traduction, que vous pouvez demander des écouteurs pour avoir une traduction en cours de route. Pour le reste, tous nos intervenants étant français, il n'y a pas besoin de plus de traduction. Alors, le principe de cette table ronde, c'est de réfléchir à la question de ce que la science-fiction peut transmettre comme information, comme réflexion qui viennent des sciences. Le terme de science-fiction, au départ, semble programmer en fait cette relation. Et d'ailleurs, Hugo Gernsback, dès le départ, enfin, dans ce qui a lancé un peu la science-fiction, parlait avait comme slogan fiction extravagante aujourd'hui, fait avéré demain. Donc il y avait cette idée de prophétie, mais aussi cette idée qu'il y avait un lien automatique à faire entre l'aspect de réflexion, de spéculation scientifique dans les récits de science-fiction et des réalités qui sont des réalités prouvées, avérées, donc vérifiables scientifiquement. Donc ce lien-là, il est inscrit dans le nom, il est inscrit dans la démarche originale, mais la question, finalement, peut être assez facilement évacuée. La question du rapport entre science et science-fiction, dès lors qu'on suppose un simple rapport d'instrumentalisation. Un auteur qui va se contenter, enfin, qui, pas se contenter, mais qui va piocher dans les informations scientifiques, dans sa culture ou dans des rapports avec des scientifiques, va piocher de l'inspiration. Et donc, s'inspirant de données scientifiques, va construire des récits qui vont être des récits imaginatifs, qui inspirent, qui stimulent. Cet aspect-là n'est pas celui qui va nous arrêter aujourd'hui, maintenant. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est de réfléchir à ce qui peut être transmis par la science-fiction, ce qui peut traverser les textes. Compte tenu d'une inspiration qui est une inspiration scientifique pour beaucoup de textes, eh bien, qu'est-ce qui parvient au lecteur? Qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est transmissible en général d'un point de vue scientifique. Le débat s'organisera essentiellement autour de trois axes principaux. Un aspect sur le contenu, à proprement parler, c'est-à-dire quel genre d'information peut être transmis, dans quelle mesure, de quelle façon, avec quel succès. Donc le contenu, la méthode, dans quelle mesure y a-t-il une image pertinente de méthode scientifique qui soit transmise par la science-fiction, et dans quelle mesure également les personnes qui lisent, enfin les lecteurs qui profitent de la science-fiction, se trouvent en situation, en quelque sorte, de se mettre à la place de scientifiques, à un degré ou à un autre, pas forcément par l'imitation, mais simplement par la démarche de déduction, de réflexion qui est basée sur le texte. Et enfin, le troisième aspect, c'est, disons, tout ce qui correspond aux promesses de la science-fiction, comment dire, tout ce qui peut stimuler l'imagination et donner envie, notamment à des scientifiques, de réaliser des choses à partir de textes de science-fiction. Alors, pour aborder ces questions et toutes les questions qui pourraient en surgir, nous avons quatre invités qui forment, avec une parité absolument exemplaire à tous les degrés, qui forment, je pense, un panel tout à fait à même de répondre à ces questions. Donc, parité à la fois, évidemment, des genres, mais parité également dans la formation. Nous avons Claude Ekenn, écrivain, critique, et qui met un soin particulier à réfléchir, enfin à partir de données scientifiques pour beaucoup de ses textes. Estelle Blanquet, agrégée de physique, formatrice à l'UFM et dont l'une des activités principales consiste à éveiller au sentiment de science des personnes qui peuvent être des personnes hautes de quelques dizaine de centimètres, donc des enfants, et également des individus tout à fait formés, mais pas forcément aussi, enfin, pas forcément plus habiles à interpréter les méthodes scientifiques. Éric Pichol, qui est physicien au CNRS, spécialiste des lasers, et également critique, enfin, qui a produit plusieurs ouvrages critiques sur la science-fiction. Et enfin, Laurence Suner, écrivain, et qui a notamment dans son roman Vestige, le premier roman de la trilogie Quantica, qui a montré un intérêt très fort pour les sciences, alors que ce soit les sciences comme l'archéologie ou plus largement les questions scientifiques, ce qu'on relie à la question plutôt des sciences dures. Et donc il y a elle aussi un soin particulier à vérifier les données dont elle se sert dans ses textes. Alors, voudrais d'abord, enfin, je voudrais en fait voilà, ouvrir la question très largement à la personne qui, parmi vous qui souhaiterait évoquer cela. Dans quelle mesure peut-on attendre de la science-fiction, qui est une fiction, qu'elle transmette des informations? Et est-ce que tous les textes peuvent le faire? Et est-ce que cet aspect-là est une mission qu'on pourrait attribuer à la science-fiction? Ou est-ce que c'est un à côté? Donc, est-ce qu'un contenu scientifique peut être transmis? Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite, sinon j'en désigne un.
J'ai l'impression que n'importe quelle fiction transmet des informations à partir du moment où n'importe quelle histoire parle du monde, elle transmet des informations sur le monde. Il se trouve que dans les récits de science-fiction, il s'agit d'informations qui ont un caractère davantage scientifique, mais pas seulement. Mais on peut aussi trouver dans d'autres ouvrages des informations scientifiques. Je ne pense pas que ce soit forcément une mission. C'est avant tout un devoir de clarté pour le lecteur, supposant qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît mal une information, que de la délivrer pour qu'il puisse simplement suivre l'histoire le mieux possible. Quoi. On est d'abord au service du récit.
Parfois, je suis tenté de te répondre par une banalité littéraire. En littérature, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire reviennent aisément. Vieille maxime de Boileau, je crois que c'est l'art poétique. C'est une évidence pour tout littéraire, c'est une évidence pour tout écrivain. Une autre évidence, c'est que c'est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît et qu'on ne voit pas si souvent que ça concevoir les choses clairement. Donc je crois que le fait de transmettre des idées, de transmettre une vision d'une connaissance particulière n'est pas une spécificité de la science-fiction, c'est une spécificité de la littérature. Si on écrit, on cherche à transmettre quelque chose, on cherche à transmettre une vision du monde. La science-fiction parle plus souvent de science peut-être que d'autres littératures, parce que les auteurs de science-fiction s'intéressent plus en moyenne à la science que les auteurs de littérature générale, mais ça ne me semble pas du tout exclusif. Ce qui me semble être une spécificité de la science-fiction par rapport à la littérature plus générale, c'est que la science-fiction tend à jouer avec les idées scientifiques. Et au-delà de la transmission des idées scientifiques, elle peut provoquer les choses. Il peut y avoir de temps en temps des tentatives d'influencer le public. Et là, il arrive que non pas que de la science-fiction, mais que certains auteurs de science-fiction se donnent pour mission. Je pense par exemple à Robert Heinlein, qui dans les années 50 décide que c'est un scandale que le public américain soit pas réceptif à l'idée de voyage dans l'espace. Et bien, pendant 10 ans, il donne toute une série de juvéniles et de nouvelles dans des revues très grand public. Et l'Américain moyen qui a vu pendant 10 ans, entendu parler de gens qui se promènent dans l'espace, dans le Saturday Evening Post, dont les enfants ont lu des romans de gens tout à fait normaux se promenant dans le système solaire, finit par trouver tout à fait normal de payer des impôts pour les projets qui mènent à Apollo. Et ainsi de suite. Donc certains auteurs de science-fiction se donnent une mission de transmission, non pas tant d'idées scientifiques dans ce cas-là, que de problématiques scientifiques et d'idées de politiques scientifiques. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui, pour le coup, peut être très spécifique à la science-fiction, parce que cet engagement politique de la littérature est très général et peut valoir dans tous les genres, même si c'est plutôt la science-fiction, effectivement, qui fait la politique de la science, qui s'intéresse à la politique de la science. La science-fiction, elle, a parfois une fonction de rupture de la norme, pour parler comme Aristote, de tentative de déstabiliser délibérément les images, les représentations que peut avoir le lecteur à propos de la science, et effectivement de forcer le passage à autre chose, un changement de paradigme. Là, par exemple, je pense au Somnium de Kepler. Kepler, immense physicien, immense scientifique, immense astronome, qui est bien sûr copernicien, qui est dans un monde qui est encore ptoléméen, qui a publié déjà des tas de livres, des tas de calculs montrant que le point de vue copernicien ça marche bien, qu'on voit depuis Mars, la trajectoire de la Terre vue depuis Mars ressemble beaucoup à la trajectoire de Mars vue depuis la Terre. Sauf qu'il a posé ça sous des formes très mathématiques, très, très géométriques, qui sont très largement inaccessibles aux lecteurs de ce temps. Bien sûr, Galilée lit Kepler et le comprend. Bien sûr, les quelques très grands intellectuels de l'époque lisent le Mysterium Cosmographicum de Kepler et le comprennent. Mais le public cultivé de l'époque est complètement incapable de dépasser le paradigme copernicien, de dépasser le paradigme ptoléméen, de sortir de la vision ptoléméenne du monde. Et la stratégie que développe Kepler pour aider le public à passer là, c'est la fiction. Puisque les calculs ne suffisent pas, puisque je n'arrive pas à vous convaincre avec une démonstration mathématique, je vais vous prendre par la main, je vais vous raconter une histoire, je vais vous amener sur la Lune. Et une fois que le lecteur a accepté en imagination d'accompagner Kepler sur la Lune, se retrouve sur la Lune, voit ce qui se passe, on raconte une jolie histoire avec ce qui se passe chez les lunatiques, mais à un moment ou un autre, on est bien obligé de se retourner et on voit la Terre dans le ciel de la Lune. Et le simple fait d'en imagination voir la Terre depuis la Lune, c'est déjà renoncer au point de vue de Ptolémée. C'est déjà renoncer au géocentrisme, puisqu'on voit la Terre de l'extérieur. Et la fiction, la science-fiction, si on considère que le Somnium est l'un des actes de naissance de la science-fiction, la science-fiction est un outil extrêmement puissant dans ce cas-là pour forcer le lecteur à renoncer à des paradigmes très puissants, à les dépasser et à penser le monde autrement.
Donc là, on approche plutôt la question de la méthode, enfin du moins plus exactement de la démarche scientifique, c'est-à-dire finalement le lecteur face à un récit, séduit par le récit, entraîné par la fiction, va plus facilement changer de point de vue, plus facilement suivre la démarche d'analyse qui va être la démarche scientifique et va éventuellement plus facilement voir de nouvelles réalités ou envisager de nouvelles possibilités.
Je suis pas sûr que les choses se posent dans ces termes-là. L'idée que la Terre n'est pas le centre du monde est une idée extrêmement simple. C'est une idée scientifique si on veut, mais que la Terre soit le centre du monde ou que le Soleil soit le centre du système solaire, ce sont des choses qui sont tout à fait simples, tout à fait élémentaires, qui peuvent être comprises par n'importe qui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin ni de formalisme mathématique ni de méthode scientifique particulière pour devenir copernicien. Là, je vais empiéter peut-être sur le domaine d'Estelle. Mais ce qu'on observe, c'est que malgré le fait que ce sont des idées très simples, il y a des difficultés considérables à franchir le pas. Bachelard parlerait d'obstacles épistémologiques. Il est quasiment impossible de sortir du carré, il est quasiment impossible de penser autrement qu'on a toujours pensé, sauf bien sûr pour les très grands esprits, sauf pour les très grands créateurs, mais l'immense majorité des gens, y compris l'immense majorité des scientifiques, ont un mal de chien à se débarrasser de ce qu'on leur a appris quand ils étaient gamins et de ne pas retomber toujours dans les mêmes ornières, dans les mêmes erreurs de raisonnement, dans les mêmes paresse intellectuelle qui fait qu'on considère toujours le même problème de la même façon, alors même que la solution peut être extrêmement simple. Et la science-fiction peut être une façon de contourner ce genre de choses. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la stratégie de Kepler avec le Somnium. Je n'ai pas réussi à vous convaincre avec des arguments purement scientifiques, avec des arguments philosophiques. Je vais utiliser la fiction pour vous aider à contourner l'obstacle et à penser autrement.
Alors, justement, concernant l'usage de la fiction, que se passe-t-il avec la fiction? Alors, Laurence, par exemple, quelle est votre démarche lorsque vous envisagez de transformer en matériaux fictionnels des données scientifiques? Et qu'est-ce qui peut, à votre avis, traverser le texte?
Bon, alors moi, je pense que j'envisage la chose plutôt dans l'autre sens. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai d'abord envie de raconter une fiction, et dans cette fiction, il y a de la science. Donc en fait, je vais intégrer la science dans ma fiction. En fait, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne pour moi. C'est-à-dire, j'ai pas forcément envie de parler de science dans mon texte, mais mon texte a besoin de science. Donc du coup, je vais essayer de rendre mon texte le plus réaliste possible, le plus crédible possible. Maintenant, dans une mesure, vu que je ne suis pas physicienne, ni mathématicienne, ni astrophysicienne, d'essayer de lui donner une sorte de crédibilité pour que le lecteur, en fait, soit plongé dans un univers qui lui semble crédible. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que... À part ça, moi, la science me fascine. Donc en fait, ce que j'ai envie de transmettre à travers mes bouquins, c'est cette fascination pour la science, surtout, en fait. Et en plus, j'ai besoin de l'argument scientifique pour développer mon intrigue. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise la science. Et bien sûr, il y a de la science, donc il y a des explications. Donc j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont dit « Oui, on a appris pas mal de choses dans ton bouquin, donc qui ne connaissaient pas. » Il y a même des gens, c'était très drôle d'ailleurs, qui pensaient que certaines notions étaient absolument complètement imaginaires, alors que c'était des notions scientifiques... de la physique quantique, j'allais dire de tous les jours. mais et d'autres notions, par contre, qui acceptaient très facilement, alors que c'était des pures inventions. Donc voilà, c'est ce que j'ai à en dire par rapport à comment j'utilise ça dans mes fictions.
Et alors, peut-être là, Estelle pourrait nous parler un petit peu de ce qui traverse le texte, ce qui peut être retenu et éventuellement utilisé. Dans la science-fiction, pour réfléchir en termes scientifiques. C'est-à-dire que ce que vient de décrire Laurence, c'est finalement la possibilité d'un choc, la possibilité d'une remise en cause. Et ça, c'est, me semble-t-il, à défaut d'une démarche, ça peut être au moins le point de départ d'une réflexion scientifique. Dès lors qu'on a le sentiment que le monde est autre chose que ce qu'il paraît simplement, on a le point de départ d'une réflexion.
Oui, j'ai juste envie de jouer quelques instants avec la salle, si vous me le permettez, pour essayer de mettre en forme, en fait, de vous faire toucher ce qu'on peut faire justement quand on travaille avec la science-fiction ou avec d'autres textes. Mais moi, j'aime bien travailler avec la science-fiction. Je voudrais que vous leviez la main à chaque fois que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. La Terre tourne autour du Soleil. Merci. Le Soleil tourne autour de la Terre. Oui. Aucune des deux réponses, aucune des deux formulations précédentes est correcte. Une main levée. Ou les deux sont correctes. Les deux formulations sont correctes. Ok. Alors vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez pu voir ce qu'il y avait autour de vous pendant que vous leviez les mains. Mais sur la Terre tourne autour du Soleil, tout le monde était unanime sur cette phrase, il n'y a pas de problème, c'est une évidence. Mais si on regarde d'où on tient cette évidence, d'où vous savez cette chose-là? Comment vous le savez, ça? Là, on est en train déjà de réfléchir à la façon dont on sait les choses. Et très souvent, je suis quasiment sûre que ce qui vous sortira, c'est « Oh, j'ai dû le lire quelque part » ou « Je l'ai appris quand j'étais à l'école primaire ». Oui. Le soleil tourne autour de la Terre, bah, tout le monde sait bien que c'est faux, ou beaucoup en tout cas. On nous a tellement dit, mais non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Bah, oui, mais Eric, vous parlez de Ptolémée, vous parlez de Copernic, mais il y en a un troisième après, c'est Galilée. Et Galilée, avec Galilée, on pose la notion de point de vue dont parlait Claude il y a quelques instants. Et finalement, ce que nous dit Galilée, c'est que ni la Terre ni le Soleil ne sont le centre de quoi que ce soit. Tout dépend de l'endroit dont on regarde les choses. Tout dépend du point de vue de l'endroit d'où l'on est. Et n'importe quel point de vue est légitime. Et ça, ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Si on regardait les mains levées, le Soleil tourne autour de la Terre, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et la science-fiction, c'est un moyen aussi, quand un auteur a décidé de jouer avec ça... C'est un moyen de faire passer le message directement, ou pour moi, d'utiliser le jeu avec lequel s'amuse l'auteur et que j'ai repéré pour le faire passer à des enseignants ou à des élèves. Ça peut être un texte, parce qu'on parlait de texte, mais ça peut être aussi des images, parce que la science-fiction, c'est aussi des illustrations. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller un peu par là, mais vous regarderez, il y a des images de Manchu, qui est qui est un dessinateur illustrateur de SF et pour Ciel et Espace, qui est remarquable pour ça. Et l'idée, c'est toujours, on va trouver un décalage. Donc je vais trouver quelque chose, je ou d'autres, hein. Alors, on va trouver un petit quelque chose qui décale. Et à partir de là, on va lancer les gens dans cette réflexion-là. Moi, j'ai envie de dire ce qui m'intéresse dans la science-fiction, ce qui est utile pour moi, pour ce que je fais, puisque moi, mon idée, c'est la façon dont on enseigne les sciences actuellement, hein. On utilise la démarche d'investigation. Donc on va lancer un questionnement et aider les gens, quels qu'ils soient, on va les accompagner dans ce questionnement. Bien, il faut trouver des situations qui intriguent. Alors ça peut être à peu près tout ce qui peut intriguer, mais avec lequel on peut jouer et avec lequel on peut vraiment travailler. Et là, en SF, il y a vraiment énormément de choses. Donc tu me demandais sur quoi, j'ai envie de dire sur tout et quasiment sur rien, parce que c'est pas évident non plus de trouver les bons textes, je dirais, les bonnes situations qui vont lancer un travail comme ça. Et il y a quelques auteurs qui sont des pros de ça. Eric parlait de Heinlein. Tu parlais de Heinlein ? Oui. Heinlein, par exemple, est un auteur qui s'amuse avec ça et qui joue avec ses lecteurs. Dans Le Vagabond de l'espace, par exemple, dans les 30 ou 40 premières pages, il va laisser des gamins faire un calcul. Et puis, si un lecteur curieux essaye de refaire la même chose, il y a une chance sur deux qu'il ne trouve pas la même chose que le gamin. Et se disent, oh, bah, le gamin s'est trompé. Et puis, 150 pages plus tard, il refait la même chose, mais cette fois-ci, il refait vraiment le calcul. Et là, le gamin qui se disait, ah, mais il s'est planté, se dit, ah, mais non, c'est pas lui qui s'est planté, c'est moi qui m'étais planté, parce que j'ai fait un raccourci rapide qu'il ne fallait pas faire. Et l'auteur laisse les choses traîner et puis va permettre au gamin ou au lecteur, quel qu'il soit, hein, je parle de juvénile là, de se reprendre en main et de se dire mais finalement il y avait quelque chose. Et ce jeu qu'entretiennent certains auteurs avec leurs lecteurs, eh bien moi c'est ça qui m'intéresse, parce qu'on peut ensuite le faire passer à des enseignants puis à leurs élèves.
Moi j'aime bien justement jouer. J'aime bien jouer avec ce changement de perspective. Le fait de renverser le point de vue permet de rendre des choses que l'on considère comme si banales et ordinaires qu'on n'y accorde plus d'attention, de s'y réintéresser, de se reposer la question et même de le remettre en question. Et, c'est aussi la manière justement de parler de ce qui nous a fascinés, comme le disait Laurence. On veut le faire partager, on va essayer de le raconter, mais si on le raconte d'une manière trop plate, en ne disant que voilà ce que j'ai appris et puis je vous le transmets à la faveur d'une fiction, ça ne suffira pas. Il va falloir le mettre en valeur, et c'est souvent en jouant avec une histoire, une trame d'une part, mais en renversant les perspectives, en donnant des points de vue inédits, que l'on peut arriver à susciter cet étonnement qui après pourrait susciter de la curiosité de la part du lecteur.
Je comprends tout. Ah. Allô, ici la Terre, oui c'est bon. Oui, alors moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites là. Dans mon bouquin, justement, Vestiges, et surtout dans la trilogie, je me pose beaucoup la question par rapport. Enfin, je pose beaucoup la question au lecteur par rapport aux mathématiques, l'interprétation mathématique et scientifique du monde. Et j'ai des personnages scientifiques qui vont essayer en fait d'interpréter la réalité d'un point de vue vraiment purement scientifique et mathématique. C'est-à-dire que les mathématiques sont le langage de l'univers. Et dans la trilogie, en fait, il se retrouve confronté à une civilisation qui n'utilise pas les mathématiques et pourtant est technologique. Donc c'est typiquement ce genre de questions en fait, qui m'amuse beaucoup justement à poser et à s'interroger sur ce concept. En fait. Parce que souvent on part du point de vue que, ok, voilà une civilisation extraterrestre, on va utiliser le langage des mathématiques pour communiquer, etc., etc. Et puis dans mon bouquin, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait. Et ces pauvres scientifiques qui sont complètement largués, parce qu'ils ne savent pas du tout comment communiquer. Et malgré leurs efforts de vulgariser les mathématiques pour essayer de faire passer leur message, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, ce sera se mettre au point de vue de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre qui pense différemment. Et c'est là que ça devient amusant. Mais ça, c'est toute la trilogie, c'est-à-dire que le Vestige, qui est le premier bouquin, on évoque vaguement le sujet, mais en fait, ça se développe dans la suite. Mais ça, c'est typiquement, je pense, ce genre d'argument, enfin, qui me fascine. Et voilà. Je ne sais pas si je suis tout à fait dans la question, mais il me semble que c'est quand même quelque chose qui...
Oui.
Oui, c'est. Je ne vais pas valider ou non savoir si c'est pertinent. Ce qui est sûr, c'est que ça va dans le sens de textes qui sont construits pour faire découvrir des choses, pour faire bouger les perspectives. L'idée de la science-fiction, de ce point de vue-là, me semble un élément crucial de la science-fiction, en dehors même de son rapport à la science dure ou humaine, c'est réellement cet écart entre une réalité qui semble simple au départ et le fait que, à l'aide de la science, à l'aide de la réflexion et de la recherche, on découvre autre chose. Il y a cet aspect d'enquête et de mise au jour de structures qui sont des structures souvent décisives. Et de ce point de vue-là, il y a quand même dans la représentation générale de la science-fiction, me semble-t-il, il y a une valorisation de la découverte et l'idée que, à l'intérieur même d'une histoire, peut intervenir quelque chose de nouveau. Et il me semble que ça aussi, ça va dans le sens moins d'une vulgarisation à proprement parler de la science, mais d'une valorisation de la science, c'est une valorisation de la démarche scientifique comme quelque chose qui apporte du nouveau au monde, ne fût-ce qu'un nouveau point de vue. Mais alors, je ne sais pas si, Claude, si tu...
On rejoint presque la définition de Sturgeon, où la science-fiction, c'est un problème humain avec des personnages humains, mais dont la résolution passe obligatoirement par un élément scientifique. Alors, oui, là-dessus, la science, on en montre l'apport. Il ne faut pas simplement mettre la science, ça c'est peut-être pour des bouquins qui font de la vulgarisation ratée. Il y en a un, il faut savoir justement comment amener les choses. Je pense à un bouquin que j'ai critiqué récemment, c'est Dos Santos, La formule de Dieu, où un manuscrit inédit d'Einstein a été retrouvé qui peut-être permettrait de fabriquer une bombe encore plus puissante que les premières bombes atomiques. Et un membre de la CIA va attraper un cryptographe, puisque le manuscrit est encrypté, on a besoin de quelqu'un qui pourrait le décoder, et de lui dire, ça pourrait être une bombe. Vous savez ce que c'est que l'atome ? Et tout d'un coup, un gars de la CIA se met à nous parler de l'atome, des quarks qui se trouvent à l'intérieur des particules élémentaires, et qui nous fait comme ça tout un cours. Je ne vois pas un gars de la CIA commencer à expliquer à quelqu'un qui fait de la cryptographie à ce niveau-là de précision. C'est complètement hors de propos. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la vulgarisation ratée. Même si peut-être, à un moment ou un autre, il était important dans l'histoire que l'on ait ces détails. C'est pas comme ça qu'il fallait l'amener.
Alors, j'aimerais revenir sur la question un peu du contenu par rapport à ce que tu viens de dire là. C'est que finalement, dans un texte de science-fiction, on peut tout à fait avoir une description conforme à l'état actuel des connaissances. Mais il n'empêche qu'il y a une tension entre la science réelle, si j'ose dire, et la science imaginaire, ou du moins la part supplémentaire qui vient perturber potentiellement cette chose-là. C'était un peu la question que j'ai peut-être mal posée tout à l'heure, l'enjeu que j'ai mal posé tout à l'heure, c'est finalement parler de transmission, de vulgarisation dans la science-fiction, c'est quand même, il faut pouvoir faire la part entre ce qui correspond à du réel, ou du moins qui est fondé sur des choses vérifiables, et ce qui est, pour le coup, de l'ordre de l'ajout de l'auteur. Sachant qu'en plus, la stimulation, me semble-t-il, essentielle de la science-fiction, c'est cet ajout, c'est cette promesse, ces choses qu'on peut ajouter, qui sont au-delà de l'état actuel des connaissances. Et donc, la question, alors peut-être est un petit peu complexe à traiter ici, mais c'est finalement, compte tenu de cette tension entre les aspects imaginaires, les aspects ajoutés, et le fait qu'il y a un fondement scientifique recherché dans des textes de science-fiction, qu'est-ce qui est vraiment transmis ? Est-ce que, et là je suis volontairement provocateur, que répondriez-vous à quelqu'un qui dirait qu'il y a un risque de perturbation du message ? Et que finalement, ce qui est transmis, c'est plutôt une science pervertie, une science imaginaire. sans faire d'études de cas. J'aimerais plutôt, enfin, je veux dire, sans dire, bah oui, certains le font plus ou moins bien.
Je répondrais que explorer le savoir, réfléchir, c'est de toute façon prendre des risques. Il faut vivre dangereusement. Donc ouvrir un livre, penser par soi-même, c'est prendre le risque de se tromper. La seule façon d'être sûr de ne pas se tromper, c'est d'entrer dans une secte, éventuellement scolastique, et rester purement aristotélicien. Là, le corpus est fini, Aristote ne reviendra pas pour changer les choses, donc on peut être tranquille dans sa connaissance du corpus. Effectivement, quand on parle du monde tel qu'il est aujourd'hui, des connaissances telles qu'elles sont aujourd'hui, donc telles qu'elles sont en permanence en train de se refonder, de changer, c'est se mettre en danger, c'est prendre le risque de se tromper. Quand on parle de science, on n'a plus d'encyclopédiste, on n'est plus au XVIIIe siècle où un très grand esprit pouvait au moins avoir l'illusion de tout savoir ou de savoir tout ce qui comptait dans son temps. Aujourd'hui, même celui qui va se revendiquer comme un scientifique est un super spécialiste d'un tout petit domaine et à peu près tranquille dans sa connaissance dans son domaine. Et quand je dis tranquille dans sa connaissance, mon expérience de la recherche est plutôt que c'est au contraire se prendre pour un crétin dans 99% des cas. Quand on s'attaque à une question sur laquelle on a des réponses, quand on s'attaque à une question qu'on comprend, essentiellement c'est pas un sujet de recherche intéressant. Donc effectivement on peut traîner à faire la physique appliquée, à développer des choses qui ont déjà été faites 50 fois. C'est confortable intellectuellement parce qu'on est très intelligent, on est très fort, on comprend tout et on peut facilement l'enseigner, mais essentiellement on ne fait pas avancer les choses en termes de recherche. Faire de la bonne recherche, c'est s'attaquer à des choses qu'on ne comprend pas. De temps en temps, de loin en loin, on a une bonne idée, on a l'impression d'avoir vraiment compris les choses et ça justifie les 10 ans d'études et les 20 ans de pratique professionnelle parce que la jubilation du moment où on a enfin l'impression de comprendre quelque chose à ce qu'on fait récompense simplement tous les efforts qu'on peut faire, mais la grande majorité du temps du chercheur est passé à ne pas vraiment comprendre le sujet auquel il parle. Cette mise en danger, chercheur scientifique, je ne sais pas si c'est peut-être différent dans notre domaine, cette mise en danger, cette acceptation du risque de ne pas comprendre fait partie du jeu scientifique et fait partie aussi du jeu de la science-fiction. C'est probablement effectivement une autre différence avec la littérature générale. Eco parle volontiers d'encyclopédie, et je crois que c'est Richard Saint-Gelais qui parle pour la science-fiction de xéno-encyclopédie. Si on parle de littérature mimétique qui ne décrit que non seulement le monde qu'on connaît, mais dans les aspects qu'on connaît, on parle du monde qui nous entoure, on reste à un niveau très macroscopique que tout le monde connaît, ça veut dire que l'encyclopédie qu'utilise l'auteur est la même que celle du lecteur, qui est celle du lecteur type, du citoyen lambda. On parle de la même chose, on est sûr de se comprendre. Le risque de ne pas se comprendre, le risque de dire des bêtises est très très faible. Quand on sort de là, que ce soit en partant vers une spéculation très échevelée de pure science-fiction, ou que ce soit simplement en parlant de sujets rares, de sujets parfaitement connus de l'auteur, mais inconnus de la plupart du public, ou parler d'un pays lointain, parler de quelque chose qui a peu de chances d'être dans l'expérience du lecteur moyen, eh bien, il y a un risque de ne pas se comprendre, il y a un risque de ne pas communiquer, il y a un risque de tomber à côté de la plaque. N'empêche que c'est ça qui fait la richesse de la communication, c'est ça qui fait l'intérêt de la lecture, et c'est en prenant ce risque qu'on a une chance d'avancer. Je pense que la science-fiction est un des modes littéraires de cette prise de risque particulière.
Je partage l'avis d'Éric, hein, et je pense que la science-fiction est aussi un endroit parfait pour exposer des intuitions, en fait, des choses qui sont absolument pas vérifiables, hein, et qui permettent de faire travailler l'imaginaire de l'auteur et du lecteur. Donc pour moi, c'est bien sûr, il y a l'aspect vulgarisation qui me semble évident, mais il y a aussi l'aspect prise de risque, comme lui il parle de prise de risque, c'est-à-dire de... On avance des idées en fait qui ne seront certainement jamais prouvées, puisque de toute façon, en science, une aînée amène une autre idée, une amène une autre idée, etc. C'est un processus sans fin. Donc en fait, pour moi, c'est aussi un endroit d'explorer des choses qui ne seront certainement jamais démontrées ou complètement fausses. Voilà, il y a une porte à l'imaginaire quoi aussi, qui peut s'appuyer sur des bases très scientifiques, très sûres, mais à un moment donné, qu'est-ce que la physique du 23e siècle quoi. Donc c'est un bon endroit pour travailler sur les idées, quoi.
Moi, j'ai envie de repartir sur la question du jeu. Lorsque l'on parle de jeu dans la science-fiction, on est en train de s'amuser avec justement des concepts scientifiques. Je ne pense pas que le danger soit vraiment très grand, puisque lorsque l'on va émettre une certaine hypothèse que l'on va pousser dans ces ultimes retranchements, on va dire supposer que ceci, cela. On sait que, et maintenant je vous pose le postulat suivant. On voit bien à quel moment l'auteur de science-fiction est en train de basculer dans un imaginaire théorique, en tout cas très pur, et quitte le terrain de la connaissance là où on en est. Ce jeu-là, je crois que ça se voit, c'est pas bien. Même s'il y a quelques risques d'erreur, je crois que l'erreur, c'est peut-être aussi pour l'auteur de science-fiction de ne pas être au courant au fait de ce que la science a trouvé et d'avancer des hypothèses qui, dès le départ, sont erronées. Ça dépend aussi de quel type de récit on parle. On peut très bien avoir des extraterrestres qui ont des capacités, des propriétés complètement étonnantes et qui ne pourraient pas être expliquées, mais qui seront capables de dialoguer avec un être humain sur des questions scientifiques que l'on va vulgariser. Il y aura une science exacte à un certain endroit et une science complètement inventée de l'autre côté sans que les deux n'interfèrent vraiment. Donc on s'amuse, c'est bien.
Je ne sais pas si Estelle, tu veux ajouter quelque chose.
Il y a une chose qu'on frôle sans l'aborder vraiment, là, c'est l'idée que... est-ce qu'on peut apprendre des choses fausses? Mais là, c'est encore autre chose. C'est quel rapport on a à la lecture, quel rapport on a au livre en soi-même. Si on ne lisait que des livres de tel auteur ou de tel, enfin, d'un auteur donné et qu'on prenait ses cours de physique dans le bouquin de science-fiction, on prend des risques. On peut prendre des risques. Après tu disais qu'il ne faut pas... On ne va pas partir sur des auteurs. Il y a des auteurs avec lesquels on prend moins de risques que d'autres.
On peut proposer des auteurs. Je parlais de catégorie. Mais s'il y a un auteur que tu nous recommandes, vas-y.
Moi, j'aime bien jouer avec Heinlein, par exemple, parce qu'avec Heinlein, justement, la plupart du temps, c'est suffisamment fouillé pour que quand il y a un doute, ça nous remette en question, parce que c'est peut-être nous aussi qui n'avons pas bien compris. Il y a ce jeu-là chez certains auteurs. Alors, il y a un problème de fiabilité, effectivement. Il y a quel crédit on accorde à ce qu'on lit et comment on peut s'amuser avec ce qu'on lit. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire qu'un gamin ou quelqu'un qui est intéressé, qui va choper quelques petites choses dans un livre et qui va se dire mais d'où il sort ça? Et je pense que ça, c'est ne serait-ce que ce premier questionnement-là, enfin je ne sais pas si, là je m'adresse aux auteurs, si vous jouez avec ça, mais si votre lecteur se dit mais d'où il sort ça? Et qu'il va creuser un peu plus loin, alors ou dans le livre ou à côté, et justement qu'il trouve que en creusant, ça colle, ou ça colle pas. Mais quand ça colle, il y a un « ouah » qui fait « hey ». Et du coup, le jeu continue et le jeu rebondit, puisque la fois suivante, c'est « mais d'où il sort ça ?» Et là, je vais vraiment... Il y avait du solide derrière la première fois, et la seconde, est-ce que ça va être la même chose? Enfin,
ouais, moi, je trouve super ce que tu dis, là. C'est justement... par exemple, bon, je prends un exemple personnel, je sais que... J'ai découvert la science à travers la science-fiction. C'est-à-dire que je lisais Asimov quand j'étais enfant, et je me dis, mais c'est génial, est-ce que ça existe? Et du coup, j'allais vérifier, j'allais voir, en fait, j'allais me renseigner là-dessus, et c'est ce qui m'a fait m'intéresser à la science, en fait. Donc là, c'était ça que j'ai trouvé fascinant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'était mon moteur, en fait, pour l'intérêt, pour différentes sciences, aussi pour l'archéologie, pour des choses comme ça. J'avais envie d'aller vérifier moi-même les données que je retrouvais dans certains bouquins d'aventure, etc., etc. Donc, voilà, je ne sais pas si...
Alors, je me demande si ce ne serait pas le moment de nous tourner vers le public. Je ne sais pas si il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter ou nous demander pour... encourager nos discussions, oui.
Oui, bonjour. Je voudrais vous poser la question de savoir si, parallèlement à cet imaginaire de la science-fiction qui est transmis plus ou moins au lecteur, il n'y a pas aussi le problème de l'imaginaire de la science elle-même. C'est-à-dire... l'imaginaire ou les imaginaires de la science que reprend plus ou moins, ou en tout cas que bricole la science-fiction.
Alors, les imaginaires de la science.
C'est une question, riche et compliquée. Pour être honnête, on est quelques-uns dans ce panel à avoir participé il n'y a pas si longtemps à des rencontres à Pérès, je crois que c'était il y a 2 ans, dont le thème était justement imaginaire scientifique et science-fiction, et où on s'est convaincu que la science c'était compliqué, c'est-à-dire qu'il y a effectivement diverses sciences, il y a la science et les scientifiques, il y a plusieurs façons de... il y a pratiquement autant d'imaginaires que de scientifiques, mais il y a aussi... Si Gérard Klein était là, il parlerait peut-être de subjectivité collective. Il y a des imaginaires individuels, mais il y a aussi quelque chose de collectif qui se joue. Il y a des façons de partager l'imaginaire, de communiquer autour d'une forme d'imaginaire qui est fluctuante, qui peut être disciplinaire. Alors effectivement, un imaginaire de chaque discipline de la science, mais il y a aussi des groupements un peu plus mystérieux qui se créent de façon relativement fugitive, c'est-à-dire pendant quelques mois, pendant quelques années. Un certain nombre de gens de disciplines différentes vont partager quelque chose, vont partager un imaginaire, vont être capables de communiquer sur ces questions. Et alors, quand il s'agit de gens brillants, de bons spécialistes, qui ont chacun des compétences dans leur domaine, en général, ça devient très fructueux et la réunion de toutes ces compétences différentes peut faire naître un nouveau domaine et une nouvelle compétence. Ça peut aussi ne pas mener à grand chose, et ça peut essaimer dans la littérature. Donc effectivement, je pense que beaucoup d'auteurs de science-fiction sont des gens qui ont des antennes très bien orientées, qui sont capables de sentir que quelque chose se joue, qui n'est pas encore formalisé. Je crois que c'est pas très intéressant pour l'auteur de science-fiction de répéter ce qui a déjà été fait en science. Quand les scientifiques ont des idées claires sur un sujet, bah, ma foi, autant les laisser dire, et une revue de vulgarisation fait aussi bien l'affaire qu'un texte de science-fiction. Mais il y a effectivement ce moment un peu fugitif où ça frémit dans la communauté scientifique, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, il y a un imaginaire qui n'est pas encore vraiment formulé et qui ouvre un espace pour le littérateur qui peut se l'approprier, qui peut apporter sa brique, qui peut essayer de mettre des mots. Et effectivement, il se peut que la science-fiction soit aussi le lieu littéraire de ces choses-là. Alors cette science-fiction-là peut être une science-fiction qui se démode relativement vite. Donc c'est un sujet pas facile. Mais je crois effectivement qu'il y a un lien très très net entre... Je suis réticent devant le terme d'imaginaire de la science, parce que je ne suis pas sûr de savoir qualifier la science, définir la science en ce terme-là. On peut définir la science en termes de méthodologie, il y a des façons de définir la science, mais je ne sais pas définir la science, je ne saurais pas dire à un instant donné, la science c'est un tel, et qui a telle et telle et telle compétence. La science c'est quelque chose qui se joue à un instant donné, et un ensemble d'actions qui sont prises à un moment donné, et certainement un ensemble de fantasmes et d'imagination et de choses encore en formulées, qui en tout cas existe dans toute science vivante, qui n'existe pas dans les sciences mortes, mais les sciences mortes ne sont pas très intéressantes, en tout cas pour les scientifiques. Les sciences où il se passe quelque chose, où il se joue quelque chose, sont des sciences qui ont un imaginaire riche, et cet imaginaire riche certainement entre en relation. On disait avec la littérature, mais je discutais tout à l'heure avec Didier Cottier, qui lui est un plasticien, qui a ce même genre de rapport à la science. Didier va sentir qu'il se passe quelque chose. On parlait de mécanique quantique, c'est pas du tout un théoricien, c'est pas du tout quelqu'un qui a une formation mathématique, mais il sent qu'il y a quelque chose qui se joue, qui n'a pas encore été dit, qui n'a pas été encore exprimé avec les armes dont il dispose, avec les outils dont il dispose, et qui du coup, parce qu'il est un artiste, parce qu'il est un créateur, meurt d'envie de le dire, meurt d'envie d'essayer de le dire. Alors soit c'est un grand artiste, et je suis persuadé que Didier est un grand artiste, et ça produit quelque chose qui parle effectivement, sinon tout le monde, du moins suffisamment de gens pour faire avancer les choses, soit c'est un échec, et là aussi je disais tout à l'heure que la plupart des scientifiques se trouvaient crétins la plupart du temps, je suis pas sûr que la plupart des auteurs soient satisfaits de leur texte en les relisant quelques temps après. Ça marche pas à tous les coups, mais je crois que c'est là que se joue la science, c'est là que se joue aussi la littérature, au moins la littérature de science-fiction.
La science, c'est ce qui est réfutable, hein. Il n'y a pas de savoir constitué.
Oui, alors sur la question de l'imaginaire, enfin, peut-être plus largement, il y a aussi la question des représentations. C'est-à-dire que, enfin, dans les choses qui sont transmises peut-être dans la science-fiction, d'une manière très diverse et pour le coup datable, me semble-t-il, on peut le dater, c'est aussi enfin, les représentations qu'on peut se faire du travail scientifique, de la démarche scientifique. Et de ce point de vue-là, il y a un double problème temporel qui est que les scientifiques du 22e siècle décrits dans les années 50 vont travailler d'une manière qui sera finalement assez proche de celle des scientifiques des années 50, alors que pour le même 22e siècle, si c'est écrit en 1990, la démarche sera différente. Démarche, méthode, outils employés, et ainsi de suite. Donc de ce point de vue-là, il y a, et là on n'est pas dans l'extrapolation, on est dans la nécessité d'ancrer sur des choses qui existent les questions. Mais alors de ce point de vue-là, alors là, c'est vraiment une question très, très, très à l'aventure, je n'ai pas de réponse en tête, mais est-ce que vous voyez justement des textes qui auraient essayé de partir de cette chose-là, de proposer une méthode, enfin des techniques scientifiques, des méthodes qui soient finalement pas redevables, qui soient innovantes, c'est-à-dire finalement un modèle de scientifique ou d'équipe scientifique non encore abouti, enfin non encore réalisé, une espèce d'idéal du futur. Ça, je
l'excelliste.
Ah, on a effectivement la question du nexialisme évoqué par Van Vogt, donc l'idée d'une discipline pour unir toutes les disciplines, un peu comme l'anneau de Sauron, la discipline qui va toutes les unir, mais bon, dans la lumière en l'occurrence, pas dans l'obscurité, l'idée étant que d'avoir un super spécialiste et quelqu'un qui en fait est capable de faire travailler les gens ensemble et d'identifier dans chaque discipline ce qui permet de travailler. Là, c'est carrément toute une discipline supplémentaire, une discipline un peu magique pour le coup.
Il y a un texte de Ted Chiang aussi qui rejoint la science qui se fait par les intelligences artificielles, disons, ou les machines, et qui commence à se constituer aujourd'hui, comme quoi on pose des questions par rapport à toutes les publications scientifiques dans une direction donnée, afin de voir s'il n'y a pas, en voyant l'ensemble de ce qui a été publié et que personne ne pense à compulser, surtout lorsque ce sont dans des disciplines différentes, quelques réponses qui seraient utilisables dans le domaine de la pharmacie ou dans d'autres domaines. Donc là, il y a une nouvelle manière aussi de faire de la science, si on veut, c'est en confiant une partie du travail à des machines.
Moi, j'avais la même réponse que la première réponse de Claude, mais vu du côté obscur de la force, parce que je suis moins gentil. Le nexialisme, Van Vogt était un grand admirateur d'Alfred Korzybski, qui est un philosophe et mathématicien polonais et ensuite américain du début des années 30, qui a essayé de développer la sémantique générale, c'est-à-dire une technique de communication parfaite qui inclut une psychologie, qui inclut une façon de communiquer, mais qui prenne en compte la relativité, la mécanique quantique, toutes les avancées scientifiques de l'époque. Van Vogt a été facile. Van Vogt, Heinlein et toute la bande qui tournait autour de John Campbell et d'Astounding à la fin des années 30 et au début des années 40 ont été fascinés par cette science. Et le nexianisme est l'une des traductions de Van Vogt. L'autre traduction majeure, c'est le monde du nona. Le nona, c'est les non-aristotéliciens, qui est le terme de Korzybski pour décrire justement un mode de pensée qui ne repose pas sur la logique aristotélicienne habituelle, dans laquelle une chose peut être elle-même et une autre en même temps et sous le même rapport. Le nexialisme est quelque chose, on peut fantasmer sur le nexialisme, et on rêve tous d'avoir ces capacités d'intégration, c'est-à-dire cette science de la science parfaite, cette science de la communication parfaite qui permet de voir ce qui est important, d'aller droit à l'essentiel en permanence, et y compris dans la science. Tout le monde en est un peu revenu, et c'est une mode qui est un peu retombée dans les années 40, à une exception près quand même. Il y a quelqu'un autre de cette bande-là qui a travaillé sur ces questions, c'est L. Ron Hubbard, qui a développé sa propre version de la sémantique générale, qui a commencé en 1950 par sortir un texte qui est quasiment une vulgarisation de la sémantique générale, qu'il a appelé la dianétique, où il a donné une version simplifiée qui pour lui était opératoire. Il fondait une nouvelle science Et Campbell, donc l'éditeur d'Astounding Science Fiction, qui était la grande personnalité de la science-fiction à ce moment-là, a fait des dizaines d'éditos enthousiastes, disant que, comment la génétique, comment la nouvelle science allait changer le monde par la science, parce qu'elle allait permettre d'arriver à une science beaucoup plus efficace. Sauf que la génétique, ça donnait lieu, le pas suivant, ça a été la scientologie. Bard est aussi le père de l'église de scientologie. Et cette nouvelle science, cette nouvelle façon de faire de la science et d'imaginer notre science, essentiellement, est aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme une secte et comme une entreprise intellectuelle qui peut être ravageuse. Étant bien entendu que, je distingue fortement la dianétique et la scientologie. Je ne suis pas forcément aussi plus convaincu par l'une que par l'autre, mais il reste des instituts dianétiques qui continuent à essayer de développer ces techniques-là qui sont distinctes de la scientologie.
Oui, alors là, on retombe sur la question de tout à l'heure. Peut-on apprendre des choses fausses à travers la science-fiction ? Mais je me retourne encore vers le public. Il n'y avait pas beaucoup de questions tout à l'heure, mais là, un peu plus. Alors... là, on va commencer ici, et ensuite là.
Alors, c'est plus une petite remarque qu'une question. C'est qu'un certain nombre d'auteurs, en particulier Hard Science, vont même, enfin, poussent la chose en faisant des postfaces où ils expliquent un petit peu leurs sources et éventuellement qu'est-ce qui relève de la réalité ou pas. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Claude et de Laurence, parce que je n'ai pas encore lu leur bouquin. Je promets de le faire un jour. Mais j'ai surtout à l'esprit, moi ce qui m'a marqué, c'était les chroniques de MacAndrew de Charles Sheffield, où il fait d'ailleurs une postface à la fin pour expliquer qu'est-ce qui fait partie de la science connue et qu'est-ce qui n'en fait pas, parce que lui, étant gamin, a lu de la SF et a cru pendant longtemps qu'un certain nombre de choses étaient possibles et vraies parce qu'il les lisait dans les bouquins, pour finir par s'apercevoir quand il fait après ses études et tout, que c'est du pipeau. Donc il prend les devants et il explique ça, c'est vrai, c'est bon, c'est carré, et ça, c'est moi qui invente.
Oui, ben merci pour la remarque. Effectivement, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Enfin, je pense à...
simplement, pour aller dans le même sens, j'aurais tendance à dire qu'il y a des auteurs qui vont même encore plus loin. Je pense par exemple à Incandescence de Greg Egan, qui non seulement, c'est pas une postface qu'il fait, c'est un site internet complet où il fait un cours de mécanique. Incandescence, en gros, c'est une entreprise, c'est probablement ce que la science-fiction a fait de plus ambitieux récemment. C'est une tentative de rejouer la révolution galiléenne dans un environnement où Galilée ne peut pas penser le monde de façon simple. Et on est, au lieu d'être sur Terre, où la gravitation est quelque chose à peu près simple, où on peut imaginer de faire des expériences plus ou moins en apesanteur, ce que Galilée n'avait pas encore, mais enfin, de dériver des mouvements à peu près simples, ça se joue, je crois que c'est autour d'une naine blanche, en tout cas dans des situations de champs gravitationnels forts, où on est en permanence dans des situations de relativité générale et où les personnages du roman doivent sauter l'étape de la relativité galiléenne et passer directement à la relativité générale. C'est passionnant comme expérience de pensée en histoire des sciences, sauf qu'il faut connaître un peu de relativité générale pour l'apprécier. Et qu'effectivement, Greg Egan se retrouve à faire des pages et des pages d'explications pour qu'on puisse comprendre son bouquin. J'aurais tendance à dire que, autant je me sens concerné comme physicien professionnel par ce genre de choses, je suis très impressionné, j'aime beaucoup ça, autant je me demande jusqu'à quel point on est encore dans la littérature, où c'est de la littérature tellement ciblée, avec une demi-douzaine de lecteurs sur les plusieurs milliers qui sont aux Utopiales aujourd'hui, on est dans un sous-genre qui finit par être
de la hyper hard science. Oui.
Oui, déjà une remarque en passant. C'est vrai que Greg Egan, il est très variable sur justement sur la façon dont il réussit plus ou moins le dosage entre la vraie science et la fiction. Mais oui, justement, parce que là, justement, en fait, ce qui caractérise en grande partie, enfin, ce qui permet de classer éventuellement la science-fiction, les œuvres de science-fiction les unes par rapport aux autres, c'est la façon dont elles se distancient de la science telle qu'elle existe. Bon, c'est par exemple quelque chose qui existe en particulier dans le domaine du space opéra. Dans le domaine du space opéra, à quelques très rares exceptions près, on est obligé de présupposer le voyage plus rapide que la lumière. Et alors, ça pose des tas de problèmes qui sont pas très simples. Je suis pas sûr de les comprendre tous d'ailleurs. Mais sur un site internet Atomic Rocket qui est très intéressant là-dessus, ils expliquent que l'auteur du site internet, il vaut mieux violer le moins de lois de la physique établie que possible, Sinon, ça devient le bordel. Les auteurs peuvent avoir une démarche différente là-dessus. Soit ils partent du changement d'une loi connue, d'un changement mineur, et ils extrapolent là-dessus. Soit ils partent du résultat et ils peuvent s'efforcer de violer le moins de lois de la physique connue possible pour avoir ce résultat. Enfin, je veux dire l'organisation sociale. Mais surtout, on a parlé principalement des sciences dures. Il y a beaucoup à dire sur la science-fiction et les sciences sociales quand même.
Alors, on a surtout parlé de l'idée de vulgarisation. On a finalement peu précisé de contenu. Alors, le biais des physiciens, c'est qu'ils parlent de physique. Mais effectivement, alors, juste pour synthétiser par rapport à ce que vous faites remarquer, c'est que là, ce qui est en jeu, c'est moins la question de la quantité de science qu'on peut identifier, et le principe de briser le moins de règles possibles, c'est finalement la logique de Campbell quand il a essayé de remettre un peu d'ordre justement dans le space opéra. C'est qu'on se retrouve finalement face à un dilemme, me semble-t-il, pour les auteurs de science-fiction, qui est qu'ils souhaitent fonder sur quelque chose de réel, de vérifiable, des choses qui doivent être stimulantes et dépasser la physique connue. On l'a dit tout à l'heure, enfin, ça a été dit tout à l'heure, que c'est un pari, c'est en même temps une audace, et c'est ce type d'audace qui va permettre de donner une certaine image de la science. Et je crois que c'est un petit peu ce qui ressort de nos discussions là, je crois qu'une chose qui peut être intéressante de retenir, c'est l'idée que même une science fausse peut servir à transmettre des notions scientifiques. Et par conséquent, finalement, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que vraiment on va faire une liste de ce qui est vrai ou pas ? Je crois que l'esprit général qui se dégage d'une œuvre de science-fiction qui va stimuler le lecteur, c'est de toute façon une envie de science. Et à partir de là, on a déjà quelque chose qui est transmis. Voilà, enfin, je me suis permis de conclure parce qu'il faut qu'on y aille. Donc, voilà, je vous remercie. Et donc, je suppose que les auteurs sont en dédicace tout de suite ou...
Oui, voilà. C'est ça.
Voilà, donc vous pouvez retrouver les auteurs à la librairie.